en jase.
On en jase, son émission d'actualité du midi disponible sur blvd.fm via notre web radio. C'est nos meilleurs moments qui s'y retrouvent. Également, il a une disponibilité serrée. C'est un médecin, c'est normal. Il est très occupé. On accueille en studio, on s'en va direct dans le vif du sujet, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens de Québec, Pascal Renaud. Pascal, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien. Merci beaucoup, Pascal, d'être présent aujourd'hui parce que grosse sortie de l'ex-ministre de la Santé, Christian Dubé. Il fait le tour des médias. Ça a commencé à Radio-Canada hier et voici ce qu'il avait à dire à propos des médecins généralistes.
On a l'impression que devant les généralistes, le gouvernement s'est encore couché.
Moi, ce que je vous dis, les Québécois ne sont pas bien servis. Ça, là, c'est pas acceptable. Et je continue de dire que
c'est pas réglé. On s'entend?
C'est pas réglé, ça.
C'est pour ça que vous êtes plus là.
C'est pour ça que je suis plus là.
C'est vrai, ça, Pascal, qu'on n'est pas bien desservi en tant que Québécois par nos médecins omnipraticiens?
En fait, s'il y a une raison pourquoi on est moins bien desservi, c'est parce qu'il manque 2000 médecins de famille. Puis ça, il n'en parle pas du tout, l'ex-ministre.
Non, c'est pas dans son document. Hein?
Exactement. Je l'ai lu son document ce matin pour me préparer. Puis ouais, effectivement, moi aussi. J'aurais aimé ça, lire ça. Parce que si on était 2000 médecins de plus, je serais pas là aujourd'hui pour vous parler parce qu'il n'y aurait pas de problème. Tout le monde aurait son médecin de famille. Puis actuellement, ce qu'on a trouvé comme façon pour compenser ce manque-là, il y a l'inscription collective qui en fait partie. Puis il y a quand même eu, avec cette entente-là, quoi qu'ils en disent, il y a eu une augmentation des services offerts à la population, là.
Ce trou-là, en termes de nombre de médecins, c'est dû au fait qu'on avait contingenté trop la médecine au niveau du gouvernement?
Exactement. Moi, quand j'ai fait mon cours de médecine, on prenait 400 étudiants par année pour faire leur cours de médecine. La CAQ a eu ça de bon quand même. Là. Ils ont monté ça à près de 1200.
Okay.
Donc, il y a une augmentation des médecins qui vont sortir. Mais vous savez, quand on forme un médecin, on voit le résultat dans 7 à 11 ans.
Bien, c'est ça, le temps de faire ton université, le temps après ça de faire ta résidence, ainsi de suite. Oui. Là. Puis, ce qui est tout à fait normal parce qu'on s'entend, c'est un emploi qui a énormément de complexité.
Ah oui, il faut étudier aussi longtemps pour soigner les gens, on n'a pas le choix.
Dans son document que j'ai lu attentivement depuis ce matin, ils vendent beaucoup la création de Santé Québec. Je sais qu'avec toi, par le passé, tu avais été très positif envers l'arrivée de Santé Québec. Depuis l'arrivée de Santé Québec, tu as fait « Ouais, j'ai déchanté ». Là, t'en es où aujourd'hui, 16 juin?
J'ai encore déchanté là, parce que on pensait qu'il n'y aurait plus de politisation du système de santé. Puis ça n'a vraiment pas été le cas. Là, on l'a vu, puis on va le revoir dans les prochaines élections. On va encore faire les frais là, des promesses, de tout ça, quand on ne règle pas à la base le problème. Là.
Exactement. Il parle aussi dans ses points positifs du gap. Ça, j'ai tendance à lui donner. Puis du décloisonnement des professions. C'est-tu vrai que c'est deux points positifs?
Oui. Le gap a réussi à augmenter de l'accès, puis on l'a vu, nous, par les visites à l'urgence, parce que vous savez que ma majorité de ma pratique est à la salle d'urgence. On voit moins de cas qui avaient, entre guillemets, pas d'affaires à l'urgence, parce qu'il y a un accès possible par le gap. Puis la région de la Capitale-Nationale, c'est une des régions les plus performantes de ce côté-là, où on a 200 000 rendez-vous offerts à des patients qui ne sont pas inscrits à un médecin de famille.
On a parlé beaucoup de la performance, évidemment, là, avec tout ce qui s'est passé avec M. Dubé aussi. Puis j'ai eu vent dernièrement d'un truc qui m'a fait un peu sourciller sur les performances de différentes équipes. Puis si on n'atteint pas les niveaux de performance maintenant, bien là, on va retrancher dans cette équipe-là. C'est-à-dire que les équipes qui sont les plus performantes vont pouvoir conserver le personnel en place. Mais les équipes qui sont moins performantes, parce qu'elles sont moins performantes, la réponse qu'on va leur dire avec ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, c'est bien, vu que vous n'êtes pas performant, on va couper. Mais comment on peut aider les équipes à être performantes si on coupe encore plus de personnel? Ça, cette partie-là, je ne la comprends pas.
En fait, là, ce que vous parlez, c'est du programme GMF.
Ouais.
Le programme GMF ne fait pas partie de notre entente. C'est des sommes qui sont
données... C'est autre chose.
Autre chose, okay. Qui sont données par le gouvernement aux cliniques en fonction de leur nombre de patients inscrits. Donc, c'est sûr que si une clinique a trois médecins qui partent à la retraite et qui avaient chacun 1500 patients, ils peuvent baisser leur niveau de GMF, mais ils vont s'occuper de moins de patients. Donc, le CIUS, dans le programme GMF, doit leur retirer certains autres professionnels.
OK.
Puis, effectivement, on aimerait ça qu'ils puissent rester dans ces équipes-là. C'est des professionnels qui sont intégrés, qui connaissent comment ça fonctionne. Par contre, le programme que le gouvernement offre les retire. On n'a pas notre mot à dire là-dessus.
Ça, vous n'avez aucune marge de manœuvre là-dessus.
Non.
OK. C'est quand même... c'est ça.
Ouais, c'est quand même spécial.
C'est juste que c'est drôlement réfléchi. Tu sais... Si on pense d'un point de vue ressources humaines, professionnel, oui, mm-hmm. mais tu sais, comme vous disiez, quelqu'un qui est déjà intégré dans une équipe, qui est déjà au courant, il y a une passation en plus parce que là, bon, il y a des médecins dans cet exemple-ci qui quittent vers la retraite. Il y aura donc de nouveaux médecins qui peuvent arriver, d'avoir des assises, une équipe sur laquelle tu peux compter parce qu'on est au courant déjà du fonctionnement à l'interne. Il me semble que c'est logique de laisser ces ressources-là au même endroit.
Le problème, c'est que l'équation un médecin qui part, un médecin qui arrive
n'est pas bonne. Ah, c'est ça.
Si c'était le cas, il n'y en aurait pas de problème parce que le médecin qui arrive prendrait les patients de celui qui part à retraite, puis c'était toujours comme ça. Mais vous avez encore vu cette année, j'imagine, là, avec quand les étudiants ont choisi leur choix de résidence, ben là, il y a une année record, là, 104 postes non comblés en médecine familiale au premier tour. Ce qui fait que des médecins qui vont venir remplacer ceux qui partent à la retraite, ben on n'en a pas autant qu'on souhaiterait, mm-hmm. puis autant que ce qui était prévu dans les prévisions du gouvernement. Puis pourquoi c'est comme ça? Ben, l'automne passé, où les médecins de famille étaient la principale cible du gouvernement, c'est clair que ça a découragé les étudiants au moment où ils devaient faire un choix pour leur pratique future.
Comment faites pour redorer justement le rôle, le titre de médecin de famille? Parce que j'ai l'impression que les jeunes étudiants sont plus attirés par les spécialités. Parce qu'il y a un certain glamour qui vient avec. « Hey, je suis un cardiologue. Hey, je nomme ça comme exemple par rapport à « je suis un médecin de famille ». Je me trompe-tu?
Non, tu te trompes pas. Puis le glamour, peut-être. Deux, la médecine familiale, c'est que c'est difficile aussi. Là. On traite des patients de 0 à 100 ans.
C'est
on
vrai.
Traite toutes les pathologies. On ne se réfugie pas dans un champ de pratique très précis. Mm-hmm. Donc, certains sont moins attirés par la médecine familiale pour ça. Il y a le côté de la rémunération. Il y a à peu près 40% de différence entre un médecin spécialiste et un médecin de famille dans leur rémunération là, globalement. Donc, ça aussi, il y en a qui choisissent les autres spécialités par rapport à la spécialité de médecine familiale à cause de ça. Donc, nous, c'est sûr que quand on négocie avec le gouvernement, on leur dit, bien, écoutez, votre besoin, puis le besoin de la population, c'est d'avoir un médecin de famille. Bien, mettons les conditions gagnantes pour que ça fonctionne. Puis, dans les conditions gagnantes, bien, il y a le travail interprofessionnel. Les jeunes veulent travailler avec d'autres professionnels. Puis ça a contaminé les plus vieux, je vous dirais, où les médecins sont contents maintenant de pratiquer en équipe dans des GMF, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Là. Mais cette ouverture de champ de pratique-là, qui était parlée là, par M. Dubé comme effet positif, bien, nous, on le vit sur le terrain. Historiquement, un patient hypertendu pouvait voir son médecin 4 fois par année pour contrôler la pression, tout ça, mais maintenant, il le voit 1 fois par année. L'infirmière clinicienne dans le GMF voit les 3 autres fois, ajuste les médicaments avec des ordonnances collectives là, qui sont faites. Puis le médecin peut voir un autre patient plus malade. Donc, il y a vraiment beaucoup de bien dans ce type de système-là où on collabore avec les autres médecins, avec les autres professionnels.
Est-ce que, là, c'est vraiment une question de néophyte, là, vous comprendrez, là, mais est-ce que, dans ce que vous dites, est-ce que c'est correct si je dis que ce que je comprends, c'est que vous êtes peut-être, en médecine familiale, ceux qui travaillaient le plus par rapport à votre rémunération en comparant avec certains spécialistes?
Bien, je ne peux pas comparer la charge de travail des autres spécialistes, là, je ne la vis pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que les médecins de famille passent en moyenne entre 46 et 49 heures à s'occuper de leurs patients par semaine.
Puis là, il faut que tu ajoutes la paperasse après ça.
Il y a de la paperasse, mais il y en a une partie qui est inclue là, dans okay. ça. Donc, c'est pas tout supérieur. Puis ça, c'est une moyenne. Mm-hmm. Nous, en salle d'urgence, un temps plein d'urgence n'est pas 40 heures. Et moins ouais. que ça, parce qu'on fait des jours, soirs, fin de semaine, on change de bord, tout ça. Mm-hmm. Donc, quand on regarde la moyenne des médecins en prise en charge, probablement que c'est un petit peu plus haut que la moyenne des médecins de famille en général.
Je termine l'entrevue. Je veux qu'on aborde certains points de vigilance ou points faibles, peut-être, du passage de Christian Dubé au ministère de la Santé. Moi, j'en vois un, les infrastructures. Les infrastructures ont dépéri complètement dans nos hôpitaux. Toi, Pascal, que les deux pieds sur le terrain, qui est deux mains dedans, c'est quoi que tu vois comme raté dans le passage de Christian Dubé, son 5 ans santé?
Bien, c'est définitivement le projet de loi 2 qui a mm-hmm. pris sous baillon pour le faire adopter.
Ça a mis le feu. Hein?
En fait, toute la préparation à ça a mis le feu quand on l'a vu venir. Un, il passe sous baillon. Puis deux, ça l'a fait partir des médecins de famille prématurément à la retraite. Là. On a réussi à en convaincre quelques-uns de rester, mais quand un médecin a décidé de prendre sa retraite, c'est difficile de dire « change tes plans un peu ». Puis nous, on a dit « il y a des médecins qui arrivent au mois d'août, est-ce que c'est possible de retarder?
Ouais. »
On a réussi à convaincre quelques-uns de retarder leur retraite.
C'est combien dans la région de Québec qui sont partis?
À la retraite, je n'ai pas le nombre exact.
Okay.
Mais il y avait, je vous avais parlé aussi des médecins qui voulaient aller dans d'autres provinces.
Oui.
Puis finalement, l'adoption de la loi a fait qu'il y en a juste 2 qui sont partis.
OK.
Donc, c'est moins que prévu. Non. mais c'est quand même deux médecins de moins qui offrent des soins au Québec. Oui.
Mais on a réussi à sauver la mise parce qu'on a démontré une ouverture du côté du gouvernement, contrairement à la ligne dure de M. Dubé.
Exact. Le changement de version, vision de M. Legault a vraiment changé ça parce que c'était beaucoup plus. Mais je regarde mes collègues en Outaouais, eux en ont perdu beaucoup.
Oui. Puis c'est ça, on n'a pas le nombre exact dans la capitale nationale, mais moi, j'en connais au moins un là, parce que mon médecin de famille a pris sa retraite et ça a fini par pencher dans la balance beaucoup. La question que j'ai envie de vous poser, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières années, avez-vous encore la flamme ou elle commence à diminuer un peu? Est-ce qu'il y a encore flamme ou on est sur la braise?
Bien, il y a encore une flamme. Est-ce qu'elle est aussi scintillante qu'elle était il y a 5 ans, il y a 10 ans? Probablement pas. Par contre, ce que j'espère, c'est que l'augmentation des cohortes va faire sortir plus d'étudiants qui choisiront la médecine familiale pour redonner un accès. Parce que quelque chose qu'on avait en commun avec le ministre Dubé, on veut aussi que toute la population ait un médecin de famille. Puis c'est clair qu'actuellement, quand on nous compare avec les autres provinces, le gouvernement, probablement pour satisfaire certains de ses besoins, oublie de dire que chez nous, 35 % de notre travail n'est pas fait en prise en charge en première ligne, est fait dans les hôpitaux, est fait en deuxième ligne, alors que dans les autres provinces, on est plus autour de 10-15 %. Donc, quand tu compares le nombre de médecins, on a l'air des fois d'être dans la moyenne ou parfois avantagé, mais dans les faits, ceux qui offrent le service qui est le plus reconnu des médecins de famille, soit la prise en charge en première ligne, bien, on en a beaucoup moins qu'ils font.
Pascal Renaud, merci beaucoup pour ta présence en studio à Boulevard 101. Toujours un plaisir de te parler.
Ça me fait plaisir. À la prochaine.
Ouais, je te souhaite des belles vacances. Si jamais on se reparle pas d'ici là, ça va être des vacances très bien méritées après l'année que vous avez
passée. Quoi, vous prenez des vacances?
Les médecins scandale! En vacances!
Scandale!
Après la pause, on parle des médecins en vacances, de ce scandale au Québec. Non, c'est pas vrai. On parlait avec Alicia Despins, chroniqueuse politique municipale. Plusieurs dossiers à parler. Premièrement, du bonhomme 7 heures du tramway Stéphane Lachance de la Ville de Québec qui reçoit une belle mention concernant sa transparence au niveau de ses états financiers. Et c'est aujourd'hui à Québec que se tient les états généraux sur les infrastructures municipales. On parle de tout ça au retour de la pause à Boulevard 101.